is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Pour cette émission des livres pour dire consacrée à l'écriture inclusive, nous avons invité Virginie Tumeller de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rosetta Gianfelice et Jacqueline Rosvoort du collectif Effeuillade de mots et Isabelle Devrint de plusieurs collectifs par ailleurs. Vous entendrez également une interview d'Isabelle Istas qui travaille dans le milieu de l'édition. Cette émission a été créée en marge du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Elle précède la semaine La langue française en fête, qui se déroule du 13 au 21 mars. Ces deux événements nous ont amenés à programmer une émission sur l'écriture inclusive. Mais cette émission, elle est dans les esprits depuis un bon moment, me semble-t-il. Expliquez-nous ça, Isabelle, Rosetta, Jacqueline.
Ce projet d'émission est né en fait au sein du collectif Effeuillade de mots, que j'animais l'année passée, donc à Uccle. Et c'est vrai que c'est né en fait d'un mail, puisque j'écris les mails en écriture inclusive, enfin en utilisant en particulier le point médian. À un certain moment, il y a eu une réaction. Peut-être que Rosetta peut enchaîner.
Oui, il y a eu une réaction d'un des participants, l'unique homme de notre groupe. Donc, il a lu le mail de la rapporteuse. Et dans le mail, la rapporteuse avait écrit « Les écrivantes qui ne seront pas présentes font le même travail par mail ». Alors, lui, en lisant ça, il s'est interdit sur le mot « écrivante ». Donc, il ne s'est pas senti concerné. Il a dit « Si je trouve que l'écriture inclusive qui n'est pas approuvée, je crois, par l'Académie française, pose des problèmes de lisibilité du texte. C'est le constat des spécialistes de la lecture. Et pour cette seule et unique raison, aucun de mes textes ne sont inclusifs. » Et c'est à partir de là qu'il a demandé au groupe si on pouvait adopter une position lors de la prochaine réunion.
Et c'est vrai que, alors, du coup, on a vraiment discuté de ces questions-là au sein du collectif, hein, lors d'une rencontre. En fait, le féminin qui avait été utilisé, c'était simplement, ça désignait effectivement uniquement des femmes et ça ne le concernait pas lui, hein, donc voilà, il s'est senti un peu exclu. Mais c'est intéressant, justement, voilà, d'être dans une position minoritaire, et c'est vrai que dans les collectifs d'écrit, il y a une majorité de femmes, et donc de peut-être ressentir ce que une série de femmes peuvent parfois ressentir par rapport à cette règle générale du masculin qui l'emporte.
Il se fait que la séance dont Rosetta vient de parler, moi je n'ai pas assisté à ça parce que je n'étais pas présente, et donc j'assiste à la séance suivante. Et le débat s'enclenche, mais pas moi, moi je ne dis rien. Et ce que je voulais souligner, c'est que pour moi je buvais véritablement du petit lait, parce que ça correspondait à ce que je pense par rapport à la position de Rosetta, par rapport à l'écriture inclusive, mais surtout parce que cette question, je la connaissais depuis pas mal de temps, et je ne l'avais jamais mis sur la table parce que je savais que ça allait être passionnel. Et donc, quelqu'un d'autre, en l'occurrence, ma copine Rosetta, s'en charge. C'était tout à fait délicieux. Et à partir de là, est née l'idée, parce que moi, je disais, il faut dépassionnaliser le débat en travaillant ensemble. Et l'idée de faire quelque chose ensemble, par rapport à cette question, eh bien, elle se concrétise aujourd'hui puisque nous faisons une émission là-dessus. Donc, c'est tout un cheminement qui s'est passé grâce à Scripta Linea et aux valeurs de Scripta Linea.
Pour être bien clair sur ce dont on parle, il est important d'expliquer aux auditeurs et auditrices ce qu'est l'écriture inclusive. Virginie ?
Alors oui, je vais essayer de donner une définition. C'est pas évident parce que je crois qu'il y a plus d'idées fausses qui circulent sur l'écriture inclusive qu'autre chose. Et notamment, on a vu ces derniers temps une cristallisation des débats particulièrement enflammés autour de ce petit point médian, qui peut-être n'avait pas escompté devenir un symbole aussi fort et aussi polémique de l'écriture inclusive. Or, l'écriture inclusive, ben, c'est bien plus que ça, en fait. L'écriture inclusive, en fait, on peut définir ça, c'est l'approche de la brochure qui a été publiée par la direction de la langue française en septembre 2020. L'approche qui est derrière, c'est de dire ben, la rédaction inclusive, c'est un ensemble de pratiques rédactionnelles antidiscriminatoires et qui veille à inclure les personnes dont on parle, et avec une attention évidemment à la visibilité des femmes à travers la langue, ici la langue écrite, mais aussi d'inclure les publics cibles dans toute leur diversité et aussi de pouvoir inclure les équipes de rédaction. Parce que ce guide s'adresse avant tout au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux équipes de rédaction du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui doivent concilier beaucoup, beaucoup de paramètres, en fait. C'est vraiment pas un métier facile. Il faut faire attention à la lisibilité, la rédaction claire, l'accessibilité et aussi des préoccupations d'égalité entre les femmes et les hommes, quoi. Donc, il faut pouvoir concilier toutes ces approches qui ne sont pas toujours facilement compatibles.
Vous auriez quelque chose à ajouter sur l'écriture inclusive? Qu'est-ce que c'est?
Donc, oui, c'est ça. Peut-être plus concrètement, je ne sais pas, mais effectivement, on a ce petit point médian qui est là et qui vient d'une certaine manière, selon certains, parasiter finalement les mots de notre langue, mais qui rend en fait visible ce que c'est que l'écriture inclusive. Puisque l'idée, c'est effectivement d'intégrer autant les femmes que les hommes dans cette écriture, et ça se fait aussi d'une autre manière ou d'autres manières qui sont beaucoup moins visibles, comme par exemple utiliser des mots qui n'ont pas a priori de genre masculin ou féminin, qui sont neutres, on va dire, qui sont, on dit, épicènes. Et donc, du coup, ne sont pas marqués par un genre. Bon, par exemple, nous, on utilise beaucoup le mot les membres. Les membres, ça peut être aussi bien des femmes que des hommes, ou les personnes. Bon, voilà, on intègre un peu de féminin, mais ça désigne aussi bien des femmes que les hommes. Enfin, voilà, il y a vraiment une logique assez générique. Ou alors, utiliser. C'est vrai, des tournures, on en parlait avec Virginie en préparation de cette émission, mais des tournures qui font qu'on ne marque pas l'écriture d'un masculin ou d'un féminin. Par exemple, merci aux abonnés de compléter le formulaire. On peut le transformer par un verbe abonnez-vous via ce formulaire, et avec ce verbe, on n'a plus cette marque du genre. Voilà différentes formes d'approche de l'écriture qui permettent en fait à chacun et à chacune de se retrouver en fait dans l'écrit.
Oui, merci Isabelle. Jacqueline, Rosetta, vous souhaiteriez ajouter quelque chose?
Comme on parlait de la brochure qui avait été éditée, moi très rapidement, je me la suis procurée, mais alors surtout, dans ma démarche, c'était, puisque idéologiquement, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes et pour la visibilité des femmes à tout point de vue, donc sur l'espace public, mais aussi dans la langue, je me suis dit, tu dois pratiquer, tu dois mettre ton idéologie, ta prise de position
Oui,
en pratique. Et
d'accord.
alors, je me suis coltinée avec des outils, parce que les outils qui étaient publiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles m'ont aidé concrètement à écrire, puisque moi j'avais tous ces schémas qu'on m'a enseignés à l'école, donc je devais détricoter, mais au départ c'était par valeur. Et donc, les outils qui m'ont été donnés, que je pouvais me procurer, m'ont aidé. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, et ça me permet, de, me semble-t-il, de comprendre une partie du pourquoi de la résistance. Parce qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort intellectuel. Pour moi, pas un effort affectif, puisque j'adhérais. Mais il y a un effort intellectuel.
Oui, intéressant. Oui. Oui, pour, oui.
Comme disait Isabelle, on utilise membres. Moi, j'utilise les personnes ou les lecteurs, lectrices, non, le lectorat. Mais tout ça, ça vient et ça finit par devenir automatique.
Merci, merci Jacqueline, merci. Rosetta, vous souhaiteriez ajouter quelque chose?
Oui, donc moi, pour compléter, je donne aussi, je veux aussi expliquer que je pratique cette langue, l'écriture inclusive, comme je parle, parce que vu mon expérience, déjà mon expérience de jeune fille, j'étais dans un lycée avec que des femmes, donc on baignait déjà dans un milieu féminin. Ce qui m'a réellement conscientisée à l'écriture inclusive, c'est quand je suis partie au Québec en 1980.
Ah oui, oui, oui.
Et là, j'ai entendu que les gens parlaient comme ils respiraient. Parlaient, quand on s'adressait à une femme, on parlait au féminin, on mettait des « e » partout, sans se poser de questions, sans réfléchir. C'était automatique. Le féminin est automatique. On mettait des articles féminins partout. Enfin, en 1980, quoi, j'étais étonnée. C'était la mère, c'était la directrice. Enfin, on mettait des là, et nous, on était encore en balbutiement en 1980. Ce qui m'a conscientisée, et donc moi, quand je suis rentrée, ça va de soi aussi de mettre mon écriture au féminin, même si, comme dit Jacqueline, parfois je dois faire un effort de mémoire, donc c'est bien un effort de création, parce que les mots n'existent pas, les mots féminins n'existaient pas, quand nous, avec nous, donc on veut faire un effort, et c'est bien que maintenant il y ait des informations, des manuels, pour qu'on puisse tous et toutes se mettre d'accord sur une grammaire féminine.
Mesdames, je vous propose de faire un petit break musical. Le titre de la chanson, c'est « Une sorcière comme les autres » de Anne Sylvestre.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger.
C'était donc Une sorcière comme les autres de Anne Sylvestre. Quelques mots sur cette très belle chanson d'Anne Sylvestre, Rosetta.
Anne Sylvestre, dans cette chanson, rend hommage à sa façon aux femmes. Une sorcière comme les autres est une chanson où donc elle explique la condition féminine à travers les âges, de la servante à la putain. Donc cette chanson, Anne Sylvestre l'a écrite, elle s'est très tôt mobilisée donc pour la condition des femmes, évidemment, quand on sort une chanson comme ça. Elle a écrit cette chanson en 1975. C'est l'année à laquelle l'ONU a officialisé la Journée internationale des femmes, hein, en 1977. Dans toutes ses chansons, elle a pris volontairement la parole au nom des femmes que l'on a trop longtemps fait taire. Mais son écriture va bien au-delà, évidemment. Elle chante à tous et à toutes. C'est une artiste engagée aux côtés des femmes, des hommes et des enfants pour une société plus juste. Et elle est décédée aussi il n'y a pas longtemps, en novembre 2020. Ouais, elle avait 86 ans pour l'année.
Ça aussi, c'est un
voilà. Donc c'est une femme qui a énormément fait évoluer les mentalités déjà dans les années 70. Hein.
Oui, c'est déjà il y a presque 50 ans, quoi. Enfin,
oui. 40
ans. Voilà.
Oui, donc là, elle doit être contente.
Elle doit être contente.
50 ans après.
Oui, c'est vrai. Encore, le combat, entre guillemets, n'est pas tout à fait terminé, je pense. Mais,
non.
Parce que, bon, ça se décline sur d'autres façons. Hein. Je vais dire la misogynie, mais parce que je pense qu'elle existe en effet, mais oui, cette domination qu'on a sur les femmes, sur notre environnement immédiat, ça remonte tellement loin dans le temps, j'ai envie de dire, que pour se remettre à flot ou pour rééquilibrer les choses, il faut encore du travail, de l'énergie. Parce que Jacqueline et Rosetta, vous êtes nos doyennes, ici en tout cas. Et donc, oui, ça doit être intéressant, votre point de vue, de voir votre époque quand vous aviez notre âge, etc., et où on ne parlait pas encore de cette écriture inclusive, et où maintenant, on commence à en parler depuis combien de temps? 5 ans, peut-être, en Europe?
Ben oui, ça, nous, oui, nous, à notre époque, on était des féministes. Oh oui, encore la féministe, c'était mal vu d'en parler, enfin, peut-être pas mal vu, mais même, on nous prenait pour des rigolotes, quoi.
Je dirais même dangereuse en ce qui me concerne,
oui,
parce que en fait, moi, ma véritable prise de position par rapport à la visibilité des femmes dans les écrits, elle est apparue en tant que syndicaliste, parce que dans les archives où il y avait donc les combats de la classe ouvrière, mais étaient notées et était mémorisé en termes de langage sous la forme masculine. Et j'ai véritablement pris conscience de la perversité des historiens.
Ah oui,
oui, oui, oui, oui. Et donc là, j'étais quand même beaucoup plus jeune. Mm-hmm. Et c'est au moment, donc les 10 dernières années, 10, oui, à partir de là, franchement, quand les femmes se sont emparées de revoir comment l'histoire avait été écrite, mmh. ces questions sont apparues. Parce que, aussi bien dans des époques plus éloignées, où retrouve-t-on les femmes? Où les retrouve-t-on alors qu'on sait que ce sont les femmes qui ont été particulièrement discriminées ou... blessée, etc. Mais il n'y avait pas de trace, parce que l'histoire et la manière dont on raconte l'histoire, ça n'a rien d'innocent, bien évidemment. Et donc, moi, je me suis approchée de tout ça à travers les archives, parce que, notamment, le combat à la FN, je ne vais pas le développer parce que tout le monde connaît bien, c'est un combat de femmes, et où il y avait des textes où on parlait des travailleurs. On parlait des travailleurs. Et où les travailleuses? Et donc, chez moi, ça a fait boum, un déclic, et je... Voilà. Mais effectivement, on ne parlait pas d'écriture inclusive à l'époque. Voilà.
Et du coup, oui, et maintenant, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation, je veux dire, de voir qu'on commence à en parler? Ça vous...
Ah, mais je comprends.
Oui. Vous aimez la façon dont les femmes aussi prennent un peu plus position dans la place publique?
Tout à fait. Parce qu'il y a quelques années, en tant que féministe, j'étais quasi désespérée. Quasi désespérée. parce que je me disais, enfin, c'est pas possible, on a tout raté. Les jeunes femmes qui prenaient la parole disaient, quand elles voulaient mettre une question de féminité en avant, j'utilise expressément ce mot, elles disaient « je ne suis pas féministe ». Je ne suis pas féministe. Et je me suis dit, mais quelle horreur, quoi. On a foutu, enfin, le système dominant a mis sur ce terme, comme il l'avait fait précédemment, sur le mot suffragette. Donc, c'est-à-dire salir et les femmes, bien sûr, les hommes, forcément, mais les femmes ont intégré ces valeurs. Et donc, j'étais, je vous assure, quasi désespérée, parce que c'était quand même un combat essentiel de ma vie, et je me disais, pff, c'est foutu, quoi. Et puis alors, voilà. Donc maintenant, je suis très contente.
Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce combat, parce que quand tu dis que ça fait 5 ans que...
Je ne sais pas, je disais
mais
ça.
Il oui. émerge maintenant, et c'est vrai que c'est assez fabuleux de voir comment la cause des femmes et la question des droits des femmes est arrivée, en fait, à l'ordre du jour au niveau politique, ce qui n'était pas du tout le cas, effectivement, il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, il y avait déjà de l'écriture inclusive, un travail sur ces questions-là. La forme du point médian, par exemple, n'existait pas encore, mais il y avait d'autres formes. Moi, je me souviens avoir travaillé sur un outil pédagogique qui s'appelle « Racisme et discrimination », où on a voulu travailler sur les discriminations croisées, et notamment les discriminations faites aux femmes. Et je me souviens qu'il y avait vraiment des réactions dans notre entourage proche disant « enfin, il n'y a aucune discrimination vis-à-vis des femmes ». Donc, cette question-là aussi... C'était le sujet d'un combat, on va dire, de revendication, mais plutôt d'ouverture quand même à une réalité qui est complètement cachée, rendue invisible. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis quand même vraiment longtemps. Ce travail sur l'écriture inclusive existe depuis des siècles même.
Ok, et, oui.
Oui, quand on pense que aussi des auteurs, des autrices choisissaient un nom masculin pour être reconnus, c'est quand même énorme aussi, hein, puisqu'on est dans le domaine de l'écriture.
Mais je disais 5 ans parce que j'avais l'impression que... c'est une impression que j'ai eue, hein, peut-être que moi je viens d'atterrir aussi, mais... que c'est depuis pas tellement longtemps finalement qu'on met sur la table que les femmes sont complètement discriminées. J'avais l'impression que c'était depuis 5 ans parce que, bon, il y a 20 ans, c'était super, je trouvais que c'était super misogyne et je trouvais que les femmes aussi participaient à la misogynie. Et parfois, elles encourageaient peut-être ou rentraient dans ce truc. Enfin, moi, j'étais un petit peu comme ça, ce que j'ai pas du tout vécu ailleurs. Oui, Virginie.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ben d'abord, il y a en effet, comme Isabelle l'a souligné, c'est un très très long combat pour la visibilité des femmes dans l'histoire, comme Jacqueline l'évoquait tout à l'heure, dans l'espace public, la visibilité des femmes dans le domaine du travail, parce qu'on a cette fausse image qu'avant, les femmes ne travaillaient pas alors qu'elles ont travaillé de tout temps. Oui. Et elles ont été complètement effacées de l'histoire du travail, je pense. Et donc, il y a vraiment tout un mouvement féministe où on essaie de remettre les femmes au centre un petit peu, de s'intéresser à leur histoire, de s'intéresser à leur point de vue. Et donc, ça participe, c'est un mouvement qui participe aussi de la visibilité des femmes dans la langue. En plus, il y a maintenant... l'aboutissement des politiques de gender mainstreaming. Ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, en Belgique, tous les niveaux de pouvoir, à part peut-être la Flandre, ont une législation de gender mainstreaming et cette législation se met en place, quoi. Aussi, le cadre politique, tout ça a mis du temps à être mis en exécution et maintenant, je crois que c'est lancé sur les rails et donc on en voit aussi les effets maintenant. Mais c'est surtout le résultat, je pense, d'un travail acharné des féministes. Des féministes non seulement dans les associations, mais aussi les féministes qui occupaient des responsabilités dans des institutions publiques, et aussi les féministes qui comment dire, qui avait un poste de chercheuse universitaire en études de genre, en études féministes. Voilà. Mm-hmm. C'est l'aboutissement de tout ça, en fait. Et puis, alors, peut-être chez les plus jeunes générations, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le hashtag MeToo qui a fait énormément bouger les lignes, qui a fait prendre conscience à toute une génération. Et bien, que le mythe de l'égalité, déjà là, c'était véritablement un mythe, quoi. C'était pas du tout une réalité. Et elle le découvrait de façon assez amère et désabusée. Voilà.
Ah, merci pour ce petit témoignage, cette information, Virginie. Alors, maintenant, nous allons faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter le titre Assez de Marie-Paul Bell.
Elle s'appelait Cécile, et la pluie sous Cécile se mêlait à l'eau des averses. Quand elle rentrait par la traverse, il la voulait docile. Frapper, c'était facile. Les coups pleuvaient dans la maison où l'homme avait toujours raison. Assez, assez, assez de tous ceux qui lèvent la main. Assez, assez, assez de ceux qui s'en lavent les mains. Ici ou ailleurs, la même douleur et la peur. Assez, assez, assez de tous ces tyrans déguisés en père ou en mari, en patron, gentil fiancé. On a trouvé Cécile, endormie sous ses cils. Un jour dans la grande maison où l'homme avait toujours raison, sa jeunesse immobile, notre rage inutile, trois lignes en petits caractères. Dans la rubrique des faits divers. Assez, 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 derrière un voile ou un volet. Assez, assez, assez de ces vies de femmes volées. Hier, aujourd'hui, la même folie et l'oubli. Jamila tombée sous les pierres, le cœur, le corps brisé, sous l'œil exalté de ses frères. Elle s'appelait Cécile, et la pluie sous ses cils se mêlait à l'eau des averses. Quand elle rentrait par la traverse, elle s'appelait Cécile.
Alors voilà, maintenant c'était Assez de Marie-Paul Bell. Pourquoi cette chanson sur la violence faite aux femmes, l'écriture non inclusive, est-ce que c'est une violence?
Oui.
Jacqueline, oui.
Oui, oui, c'est une violence symbolique, parce que exclure la moitié de l'humanité sous la forme de l'écriture, il y a une violence symbolique, bien évidemment. Mais j'ai particulièrement fait ce choix, alors qu'on est dans la thématique de l'écriture inclusive, parce que la chanson parle de la violence physique faite aux femmes, et que je me suis dit, ça va me permettre de dire que tout est dans tout, et que donc la violence physique est un des volets de la violence globale faite aux femmes. Et que donc je voulais aussi spécifier que mon combat pour l'écriture inclusive n'exclut absolument pas, il est parallèle à mon combat contre la violence faite aux femmes. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Il est impossible d'aborder l'écriture inclusive, en tout cas pour moi, d'aborder le combat pour l'écriture inclusive sans avoir en même temps dans la tête le fait que c'est une des violences qui est faite au niveau des femmes et donc particulièrement la violence qui est déconstruite par Marie-Paule Bell. Et en plus, au niveau de la chanson, je trouve que sa manière de chanter, donc elle a une manière très, très douce comme ça, et puis quand elle dit « assez, assez, assez », pour la militante que je suis, je me sens marcher avec elle. Donc, voilà.
Super. D'où vous êtes venue cette réflexion sur l'écriture inclusive? C'est une question que je pose à vous toutes. Hein. Si quelqu'un a envie de prendre la parole, je veux dire quelqu'une.
Oui, moi je veux bien.
Isabelle, vas-y.
Je veux bien parler parce que c'est vrai que ça fait partie d'un tout, comme dit Jacqueline. Et l'enjeu ici, c'est de réfléchir à la langue comme outil puissant de représentation des choses. Et en réalité, cette question sur l'écriture de la langue et sur la place de la femme de la langue, elle soulève voilà, la question de la place de la femme dans la société. Il faut bien être conscient que règle du masculin qui l'emporte, elle est datée de cette fameuse création de l'Académie française, et que avant cela, en fait, il y avait une autre règle qui prédominait, on va dire. Donc, qui était beaucoup plus souple finalement. Il y avait une sorte d'attraction, puisque la langue était déjà genrée, hein, avec le masculin et le féminin, mais une attraction, par exemple, de l'accord de l'adjectif avec les derniers noms qui avaient été évoqués. Donc, si on évoque un groupe de garçons et de filles qui courent dans la prairie et qu'on utilise en fait un adjectif, l'adjectif beau ou belle, ben on va utiliser belle parce que on vient de parler des filles. Donc, c'est le dernier élément en fait qui guidait l'accord de ces adjectifs. Et en fait, à l'Académie française, il y a vraiment eu quelque chose de très violent, et pas que vis-à-vis du genre féminin, mais je veux dire, il y a eu quelque chose qui a été très figé, une volonté de normer, de donner une sorte d'élitisme à une manière d'écrire. Alors c'est sûr qu'il faut aussi se comprendre, etc. Mais quand même, cette Académie française, elle est quand même très... à la fois forte et tellement rétrograde. Donc c'est clair que ce combat-là, il participe du combat contre une domination, en fait, quelle qu'elle soit, et ça rejoint vraiment cette dimension de genre qui nous est chère, ça c'est clair.
Et du coup, en quoi le langage est une force d'action ? En quoi est-ce qu'il pourrait être politique ? Virginie ?
Oui, j'avais envie de répondre par un exemple, en fait. Auparavant, dans les offres d'emploi, les titres étaient seulement mis au masculin. Et puis, avec les progrès réalisés dans la législation antidiscrimination, on a systématiquement mis, enfin, pas toujours, mais de plus en plus souvent, le titre de la fonction du poste à la fois au masculin et au féminin. Et il y a eu toute une série d'études en psychologie sociale qui ont montré que les postes où tout était écrit au masculin attiraient nettement moins de candidatures de femmes. Et que dès qu'on faisait cohabiter la forme masculine et la forme féminine, automatiquement, il y avait plus de femmes qui postulaient à ces offres d'emploi. Donc, je crois que ça montre à quel point il y a moyen... d'impliquer ou de ne pas impliquer, juste avec la langue, d'inclure ou d'exclure un groupe social.
Voilà, c'était un exemple que j'avais envie de vous montrer.
Merci Virginie. Rosetta.
Oui, et pour poursuivre ce que Virginie vient de dire, moi je pense que même cet exemple où elle dit c'est un exemple, moi je pense que tout est dit là-dedans. Hein. Le fait qu'on ne se sent pas impliqué quand on voit un mot, quand on voit un nom de métier, par exemple, si je me rapporte encore à mon cas, mais c'est le cas de la majorité des jeunes filles, des gamines, si on voit un nom de métier masculin, ben on ne se dirigera pas vers ce nom-là. Par exemple, maçon, si j'avais voulu être maçonne, je n'aurais pas pu, puisque ce mot, je ne savais même pas qu'il existait. Bon, je voyais maçon, bon, je me disais, ce n'est pas pour moi. Enfin, c'est un exemple, comme disait Virginie, mais c'est un exemple qui éclaire toute notre façon de voir le monde, hein.
Je crois qu'il faut aussi penser du côté de l'employeur, c'est-à-dire que c'est sûr que du côté des candidats et candidates, bon, ben on se reconnaît plus facilement quand il y a les deux genres, hein, ça vaut aussi pour infirmiers et infirmières, mais du côté de l'employeur, ça permet aussi d'ouvrir les représentations et de pouvoir effectivement se dire que finalement son poste, puisqu'il est tenu d'écrire le masculin et le féminin, ben oui, il est ouvert aux deux genres et donc il doit le penser aussi comme ça. Donc ça agit quand même sur les représentations. Ça, je pense que la langue est dans ce sens-là un outil très puissant. C'est vrai que l'écriture inclusive, elle est écrite, hein. Mais si j'ai un texte écrit en écriture inclusive et que, enfin, quand je dis l'écriture inclusive, je veux dire le point médian, il est écrit, on ne peut pas le dire, mais finalement, on va l'oraliser en incluant le féminin, hein, donc en disant chacun, chacune ou chacune, chacun, enfin, ça peu importe l'ordre finalement, mais ce point-là rappelle. Que l'oralité peut vraiment se décliner aussi bien au féminin qu'au masculin. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense aussi, est très fort, peut agir vraiment sur tout le monde.
En France, des personnalités comme le philosophe Raphaël Enthoven s'opposent à cette écriture inclusive. Il dit « C'est le cerveau qu'on vous lave quand on vous purge la langue », en la comparant aux 9 langues de 1984. Donc le roman 1984. Une circulaire de 2017 d'Édouard Philippe, premier ministre français du gouvernement Macron, prohibe l'utilisation de l'écriture inclusive dans des textes administratifs. L'Académie française évoque un péril mortel pour la langue française. Ça vous fait quoi, vous, cette opposition à cette écriture inclusive? Virginie.
Alors, je crois que d'abord, il y a un petit micmac, je pense, sur ce qu'on appelle une rédaction inclusive. En fait, la circulaire d'Édouard Philippe prévoyait en fait d'utiliser la féminisation des noms de métiers, titres, grades, fonctions, etc., dans les publications du journal officiel. Et, comment dire, déconseiller l'utilisation du point médian. C'est juste une partie de la rédaction inclusive qui était déconseillée ici. Par contre, je crois que pour Raphaël Enthoven et pour l'Académie française, il y a encore une fois aussi un amalgame à partir de ce point médian. Et à l'époque, en 2017, l'Académie française était encore contre la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. Depuis 2019, elle a revu sa position, enfin, il était temps. Comment dire, il y a toujours cette idée préconçue que l'écriture inclusive, c'est seulement l'utilisation du point médian, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est un ensemble de procédés, en fait, et de pratiques. On peut, je pense, dans la rédaction inclusive, identifier trois groupes de pratiques. Le premier, qui a pour objectif de visibiliser les femmes dans la langue écrite, en recourant à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. Alors ensuite, il y a un groupe qu'on peut qualifier de neutralisation de la langue, où on va utiliser plutôt des tournures de phrases neutres. Par exemple, au lieu de dire « cet article est réservé aux abonnés », on peut dire « abonnez-vous pour lire cet article ». C'est une façon de ne pas genrer absolument la phrase. On peut utiliser les termes épistènes, on en a parlé tout à l'heure, hein, au lieu de dire les experts, par exemple, on peut dire les spécialistes. Et alors, on peut aussi utiliser des noms collectifs. Je crois que c'est Rosetta qui l'évoquait tout à l'heure. Hein, au lieu de dire les lecteurs, on peut dire le lectorat. Voilà. Donc, ça, ce sont des procédés qui visent en fait à neutraliser, si je puis dire, la langue française. Il n'y a pas de genre neutre hein, en français, donc il faut recourir à ce genre de moyens-là. Et alors, le troisième groupe, c'est peut-être de traquer les connotations sexistes. Peut-être au lieu de dire les hommes d'affaires, on peut dire les gens d'affaires. Au lieu de dire le panier de la ménagère, qui est très, très connoté, on peut dire ben, le panier du ménage, pourquoi pas. Un remède de bonne femme, on peut dire traditionnel. Voilà, il y a des tas de façons de traquer voilà, le sexisme dans la langue. Et il y a aussi toutes les dispositions qui ont été prises au niveau des civilités. On a demandé maintenant dans la langue administrative de ne plus utiliser mademoiselle et de ne plus s'adresser aux femmes mariées par le prénom et le nom de leur mari aussi. Voilà, donc ça, c'est des pratiques qui évoluent également. Et alors, pour en revenir aux offres d'emploi, maintenant, ce qui est pratiqué par le CELOR, par exemple, mais aussi par toutes les autres administrations publiques, c'est de mettre alors le titre au masculin, oui, le titre du poste au masculin, mais de mettre entre parenthèses FHX, donc pour répondre positivement à une résolution du Conseil de l'Europe concernant le droit des personnes transgenres. Voilà.
Ah, voilà, donc tu as dit que c'est une grande progression quand même en quelques années. Ces avancées s'appuient-elles sur des textes législatifs ?
Oui, on a plusieurs. Au niveau de la législation pure et dure, ça ne concerne pas vraiment l'écriture inclusive, ça concerne plutôt la lutte contre les stéréotypes. Par exemple, je vais prendre le document de référence qui est la déclaration de Beijing et la plateforme d'action de Beijing, qui est une déclaration des Nations Unies très importante, qui a fondé un peu toutes les politiques de gender mainstreaming actuelles. Il était demandé que les États membres des Nations Unies prennent des mesures rigoureuses, efficaces, pour lutter contre les stéréotypes de sexe, spécialement dans les médias et la publicité. Hein, on parlait déjà des images dégradantes des femmes et des filles, des véhiculées par les médias et dans la publicité. Alors aussi traquer les stéréotypes dans l'éducation et notamment dans les manuels scolaires. Et alors aussi lutter contre les stéréotypes de sexe dans la sphère du travail. Quoi. Donc ça, c'est un peu, comment dire, la base légale et le cadre politique de l'écriture inclusive et de sa prise en compte maintenant dans l'administration publique.
Et vous êtes, Virginie, vous êtes beaucoup plus familière donc, dans l'administration publique et vous avez senti une évolution au fil des années ou...
Alors, à l'heure actuelle, la direction de la langue française n'a fait que publier ce guide. Donc, ça a été écrit par deux linguistes de renom, Anne Dister et Marie-Louise Moreau. Mais, comment dire, les recommandations ne sont pas encore effectives. Une publication qui est destinée à ouvrir le débat. Par contre, je sais que dans certaines institutions universitaires, on a publié aussi des guides de rédaction inclusive. Certains syndicats ont publié leur propre guide, l'administration communale aussi, je crois qu'on peut citer la ville de Liège, qui a été une des premières à publier une sorte de petite feuille de recommandation. Je crois que c'était déjà en 2005, mes souvenirs sont bons. Et alors récemment, la ville de Namur a dit qu'elle demandait à son administration communale d'appliquer la rédaction inclusive. Pas forcément au niveau du point médian, on peut revenir après, si vous voulez, sur le point médian, mais au niveau de l'ensemble des procédés que j'ai évoqués tout à l'heure.
Je vous remercie, Virginie. Dites, je vous propose, mesdames, de faire une petite pause musicale. Alors, le titre de la nouvelle chanson, « Rime féminine » de Juliette Nouredine. Voilà, c'est parti.
Dans un corps vide entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin ou Garbo dans La Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel ou l'enragée Louise Michel. Vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa. Que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Buglioli Dei. Tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan. Pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïse Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métempsychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, Hollande de Bouge, Rosa la Rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Angela et Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Brocchia Lupès. Enfin j'ai pour être sincère, du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bredacher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croatou, en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette nous rédine.
Nous voici de retour avec nos invités. Donc, nous avons par ailleurs rencontré Isabelle Istas, qui est correctrice, essentiellement dans le milieu de l'édition et qui défend un autre point de vue. Écoutons-la.
On entend beaucoup parler de l'écriture inclusive en ce moment. Elle fait vraiment débat. Je pourrais dire que je suis contre, mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, je suis pour une partie de l'écriture inclusive. Dans l'écriture inclusive, on entend plusieurs choses. Il y a notamment la féminisation des métiers, des fonctions, des titres, etc. Donc, cette partie-là, pour moi, elle est tout à fait indispensable et ça fait 25 ans, peut-être même plus, qu'on en entend parler. Donc, au niveau des titres, moi, je suis encore très étonnée de voir, par exemple, dans mes clients, notamment dans les maisons d'édition juridiques, des auteurs qui signent, donc des auteurs femmes qui signent avocat. Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il devrait y avoir une évolution. Au lieu de dire droit de l'homme, on dit droit humain, comme ça il n'y a plus cette distinction homme-femme pour justement inclure plutôt que de faire une distinction. Par contre, dans l'écriture inclusive, il y a le fameux point médian ou point milieu qui est pour moi illisible en français. Et c'est ce qui, dans mon métier et en lien avec les clients que j'ai, pose problème réellement. Et je pense que c'est ce qui fait débat parce que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est un petit peu anarchique. Parfois, dans des ouvrages plus pointus, on a des universitaires qui ne maîtrisent pas réellement cette manière d'écrire. Et donc, c'est très compliqué à la fois de l'écrire et à la fois de lire cette écriture. Et c'est ce qui aussi est pour moi problématique. C'est le fait que cette écriture qu'on dit inclusive exclut. Je trouve que dans les différents arguments qu'on peut lire, ce qui est important, c'est qu'il y a toute une série de personnes qui apprennent le français, qui ont des difficultés, que ce soit la dyslexie ou bien les malentendants. Toutes ces personnes-là vont avoir encore plus de difficultés à maîtriser et à comprendre le français en lisant cette écriture qui, avec le point médian, devient parfois vraiment compliqué à appréhender. Tout ce qui est oralité aussi peut éventuellement poser problème parce que dans la manière d'écrire l'écriture inclusive, on peut avoir « il » et « elle » ou bien alors le fameux point médian. Mais quand il y a un point médian, oralement, on ne sait pas le dire. Et donc, pour toutes les personnes qui passent par des systèmes de détection pour des personnes qui sont malentendantes, etc., c'est vraiment assez problématique, à mon avis, pour ce type d'écriture. C'est cet aspect-là, moi, qui vraiment me pose problème, et c'est peut-être plus technique que vraiment sur le fond, parce qu'évidemment, je suis pour... l'inclusion, la posture, elle est là. Je suis une femme, donc je ne vais pas être contre moi-même. J'apprécie qu'on me reconnaisse en tant que femme. Mais en français, il y a moyen d'écrire le sexe d'une autre manière et il y a des possibilités de s'exprimer pour défendre la position de la femme autrement que par le point médian.
On a poursuivi l'interview en demandant s'il n'était pas envisageable d'intégrer le point médian dans les logiciels de reconnaissance de texte pour intégrer une oralité de cette écriture inclusive.
Ça pourrait être possible. Techniquement, je pense que c'est un petit peu tôt de parler de ça et de voir comment ça va évoluer. Et c'est la même chose pour le point médian en tant que tel. Les ordinateurs ne sont pas encore équipés, tous en tout cas, de ce point médian qui, au niveau typographique, est un peu nouveau. Donc, probablement que ça va aussi se développer. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une norme et qu'il y ait des règles par rapport à ça. Et donc, le problème, c'est que si personne ne suit la même règle, Voilà, ça c'est un peu difficile. Peut-être que dans les années à venir, ça va se développer et qu'il va y avoir des règles aussi qui vont être acceptées par l'Académie française, entre autres. On ne sait pas dire. L'Académie française a quand même reconnu récemment la féminisation des titres de fonction, etc. Donc, peut-être que l'écriture avec le point médian va se développer. Personnellement, je ne le souhaite pas parce que, clairement, pour tout ce que j'ai dit, au niveau de la manière de travailler et j'entends bien et je le sens bien au niveau de mes clients, c'est problématique. Dans les universités, c'est en débat. Pour tout ce qui est administration, je pense que ça s'impose un petit peu au fur et à mesure. Alors ça aussi, pour moi, c'est un petit peu questionnant, mais pour toutes les maisons d'édition qui sont plus générales ou bien qui éditent de la littérature, je pense que l'écriture inclusive passera moins bien et sera plus difficile à intégrer. Quand je disais au niveau des administrations que c'est questionnant, j'ai entendu et j'ai vécu ça lors d'un entretien d'embauche. Il a fallu que j'écrive en écriture inclusive. C'était dans le cadre d'un travail dans l'écriture et dans la rédaction et dans une administration. Donc, dans cet entretien d'embauche, j'ai dû écrire en écriture inclusive et cet exercice et ce point-là était excluant puisque ça faisait partie de la sélection. Alors, si l'écriture inclusive devient excluante, ça pose question.
L'écriture inclusive comme source d'exclusion. Qu'en dites-vous, Virginie Tumeler?
Votre invité est tout à fait sur la même longueur d'onde que les autrices de la brochure, c'est-à-dire Anne Dister et Marie-Louise Moreau, qui pensent à peu près pour les mêmes raisons que, en tout cas, dans un contexte d'administration publique, l'utilisation du point médian est à déconseiller. Je dis bien déconseiller, hein, ne l'interdisent pas. Hein. Mais ils expliquent que pour en effet toute une série de publics cibles comme les personnes qui souffrent de troubles 10, par exemple, les personnes qui ont un handicap visuel, les apprenants en français langue étrangère, ça pourrait être un obstacle. Alors elles invoquent aussi le problème du traitement du point médian par les systèmes de lecture vocale, hein, c'est pas encore optimal pour l'instant. Ceci dit, entre parenthèses, je pense que ce problème sera bientôt réglé parce que la demande sociale est forte. Mais pour une question aussi de fluidité, de lisibilité, de clarté, elle déconseille l'usage du point médian. Et donc, elle recommande de recourir à tous les autres procédés que j'ai déjà évoqués tout à l'heure. Et elle recommande surtout de varier les procédés. Parce que c'est vrai que si on utilise tout le temps les doublets complets, ça va alourdir considérablement votre texte. Ce n'est pas non plus souhaitable d'un point de vue de la rédaction claire et de la lisibilité. Donc, sur ce point, c'est le cas de dire là, la brochure est en accord avec les propos de votre invité.
Merci Virginie. Pourquoi est-il si difficile d'adopter, d'aller vers un changement dans l'écriture et les normes en général? Pourquoi ces résistances au changement? Oui, Jacqueline?
Je veux simplement souligner le fait que et ça va rejoindre la question que tu soulèves, parce qu'évidemment, je l'ai un peu, enfin, ça a déjà été un peu évoqué, il y a les représentations mentales, ce qu'on nous a appris, j'ai évoqué la boîte noire, etc. Et je voudrais dire ici deux choses. Par rapport au point médian, l'écriture inclusive, ce n'est pas le point médian, ce n'est pas que ça. Or, il y a, et ce n'est pas un hasard, évidemment, en termes de communication, de focaliser quand on est contre quelque chose, on enlève, on élague tous les autres éléments qui pourraient être porteurs pour que l'on adopte, en l'occurrence ici, l'écriture inclusive, on élague ces éléments et on focalise sur le point médian. Et donc, en faisant ça, on en arrive presque ici à se dire, on va discuter du point médian. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose, c'est en fait très très utilisé par ceux qui ont les rênes de la pensée dominante. c'est de focaliser et de mettre du brouillard pour qu'on ne comprenne plus rien. Alors, t'es pour le point médian ou pas? Mais qu'est-ce que c'est ça? On n'est pas là-dedans. On n'est pas du tout là-dedans. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Et puis techniquement, quand Isabelle dit que ça va compliquer l'apprentissage du français pour des personnes qui sont des apprenantes, je voudrais simplement dire que apprendre d'office ce signe graphique comme on apprend, par exemple, le point d'exclamation qui exprime quelque chose ou le point d'interrogation. Pourquoi ce serait plus difficile à intégrer? Je ne crois pas que ce soit pour les apprenants et les apprenantes que c'est difficile. C'est pour les personnes qui enseignent, certaines, je n'ai pas dit tout le monde, mais certaines personnes qui font de la résistance pour toute une série de raisons, parce que ça remet... je le disais tout à l'heure, qu'il faut faire un effort. Moi, j'ai dû faire des efforts avec moi-même en me rendant compte que j'utilisais une manière d'écrire qui était la manière qui m'avait été enseignée et qui m'avait été enseignée parce que c'était là les dominants, ceux qui, les experts et ceux qui tenaient le pouvoir, et notamment le pouvoir économique. Moi, je crois qu'on ne peut pas dissocier cet aspect-là. Donc, ce n'est pas plus difficile d'apprendre le point médian qu'une virgule. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et un autre argument que je veux donner, très brièvement, c'est que dans la lecture, puisqu'on dit que c'est tellement difficile, dans la lecture, quand on lit, nous qui maîtrisons la lecture, on peut nous présenter un texte où on a enlevé toute une série de mots, de lettres, et où nous allons lire, on n'a même pas conscience que le A ou le E a été enlevé, parce que c'est photographié dans notre cerveau et donc c'est intégré. Donc, la féminisation de l'écriture peut très très bien être intégrée, mais c'est une question de volonté et de choix politique, hein, de choix politique de tous les individus. Parce que c'est hautement idéologique cette affaire. C'est le point médian en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Et si on gratte un peu, par exemple pour Eindhoven, je ne vais pas développer, mais grattons, et on verra ce qu'il y a en dessous. Est-ce que, moi je suis encore dans la classification des progressistes, mais je sais qu'on peut remettre, parce que le progrès maintenant, on commence aussi à le remettre en question, en disant, est-ce que le progrès, c'est quelque chose de positif? Donc, moi j'utilise encore les conservateurs et les progressistes, mais c'est plutôt de dire les personnes qui remettent en question un fonctionnement injuste de la société. Il y a des injustices, et notamment à l'égard de la moitié de l'humanité.
Je crois que même les femmes sont un petit peu plus que la moitié de l'humanité. C'est vrai que ça paraît fou quand on regarde un peu avec de la distance, de se dire, mon Dieu, comment est-ce qu'on peut penser qu'une civilisation va bien se porter quand on ostracise plus de la moitié de sa population, de sa civilisation même. Enfin, voilà. Virginie, oui, vous vouliez réagir.
Oui, je suis en partie d'accord avec Jacqueline quand elle dit qu'il y a eu une surmédiatisation et une instrumentalisation de ce point médian. Ça a été une façon, évidemment, assez facile de s'opposer à l'écriture inclusive parce qu'on l'a réduit juste à ça. En revanche, oui, c'est compliqué de se prononcer sur sa difficulté ou pas pour des personnes ayant des troubles 10, un handicap visuel ou des personnes qui parlent une autre langue, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une absence totale de consensus sur comment tronquer les mots. Donc, on voit des pratiques tout à fait différentes. Chaque usager a sa façon à lui de tronquer le mot, et c'est pas si évident que ça de mettre de l'ordre là-dedans. Alors peut-être pour des mots comme enseignant, enseignante, c'est très facile, par exemple, mais pour des mots comme directeur, directrice, c'est déjà plus compliqué de tronquer. Et alors quand il s'agit d'adjectifs, nombreux, nombreuses, c'est pas évident non plus. Donc voilà, les terminaisons, l'irrégularité dans les terminaisons, etc., fait que c'est pas si évident que ça de savoir où placer le point médian. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la brochure le déconseille dans des textes administratifs qui doivent comment dire, être lisible par le plus grand nombre, en fait, hein. Donc ça, c'est une réflexion que j'avais envie de faire. Après, le point médian, il a été conçu comme une abréviation, en fait. On utilisait avant tout dans les formulaires. À l'époque, on utilisait encore les parenthèses, hein. Par exemple, né le, né entre parenthèses e le. Bon, bah, on est allé coller d'abord des parenthèses, puis on les a remplacées par des traits d'union, puis par des barres obliques, puis maintenant par un point médian. Et ce point médian, en effet, c'est devenu une abréviation très, très, très facile à utiliser, en tout cas pour les partisans appliqués de l'écriture inclusive. C'est devenu quelque chose qu'on a employé peut-être un peu plus qu'il ne fallait, parce que bon, il ne faut pas oublier qu'avant tout, son rôle, c'était d'être une abréviation, comme Madame est abrégée, comme Monsieur est abrégé, etc. Le fait qu'on ait tenté d'utiliser tout le temps, c'est parce que, je pense, c'est parce qu'on se dit, après avoir écrit son texte, « Ah, il faudrait que je rende mon texte inclusif. » Et alors là, c'est un petit peu tard de corriger, entre guillemets, sur un texte qui n'a pas été pensé comme inclusif à la base. C'est un peu comme si vous prenez une mauvaise photo et que tout à coup, vous vous dites « Ah, je vais essayer de la corriger, je vais appliquer différents filtres de mon smartphone pour en faire une belle photo. Bon, » ben, le résultat n'est jamais très bon. Ben ici, c'est un peu pareil. C'est comme si vous aviez un texte qui n'a pas été pensé pour être inclusif et que vous dites « Oh, je vais à tout prix appliquer un filtre inclusif dessus » et le résultat ne va pas être satisfaisant. Et donc, c'est l'écriture inclusive, c'est non seulement un ensemble de procédés, mais c'est aussi un état d'esprit. Voilà, c'est ça que j'avais envie d'ajouter par rapport à ce que Jacqueline avait dit. Voilà.
Merci Virginie. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions au propos d'Isabelle Istas ? Rosetta, allez-y.
Moi, je veux aussi juste parler un peu du point médian. Comme dit Jacqueline, bon, on en fait tout un plat alors que c'est juste une réforme de l'orthographe française en plus, hein, qu'on ne veut pas poursuivre, point final, point. Et aussi, pourquoi est-ce que vouloir accepter la parenthèse, hein, mettre les femmes toujours entre parenthèses et pas prendre le point médian plutôt. Je veux dire, moi, de nouveau, ça tombe sous le sens que je retire la parenthèse et je mets un point entre les deux. Parce que mettre une parenthèse quand on féminise, c'est de nouveau mettre la femme entre parenthèses, c'est-à-dire c'est moins important. Quand on met quelque chose entre parenthèses, c'est toujours moins important. Donc, remplacer les parenthèses par un point, je ne vois pas en quoi ça peut choquer. Comme dit Jacqueline, c'est l'arbre qui cache la forêt, le point médian, on ne veut pas. On trouve que c'est trop lourd, que c'est compliqué. Et c'est surtout ça, quoi. C'est trop compliqué. Raphaël Eindhoven ne veut pas. Raphaël Eindhoven, que j'aime beaucoup, évidemment, hein, c'est un homme qui parle très bien. Je l'écouterai pendant des heures et des nuits. Mais il veut juste pas s'impliquer là-dedans. C'est dommage pour tout le monde. Il n'a pas envie de s'impliquer plus là-dedans. Alors qu'il dit lui-même, lui qui est un adepte de Spinoza et qui veut essayer de tout comprendre, moi j'ai l'impression, quand je l'écoute, il n'a pas envie d'aller plus loin dans l'écriture inclusive. Et il ne fait pas l'effort de comprendre. Je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est un homme fabuleux, dans son langage, dans ses textes, dans ses pensées. Mais à propos de l'écriture inclusive, je trouve qu'il devrait faire un effort, parce que c'est un homme si important. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est un homme important. Donc il devrait faire un effort et s'impliquer dans le travail de co-création dans le domaine de l'écriture inclusive.
Isabelle, tu voulais réagir au propos d'Isabelle Istas?
Oui. Je ne sais pas si c'est encore en lien avec Isabelle Istas, mais
oui,
je voudrais quand même souligner le fait que pour moi, quand même, le point médian est un bon marqueur d'une question qui se pose vraiment aujourd'hui de manière très large. Et finalement, voilà, l'écriture inclusive, de manière générale, va mener en fait la langue vers une démasculinisation. Plus qu'une féminisation, c'est vraiment l'idée de sortir d'exclusion. Et on hérite quand même de siècles, voire de millénaires, de cette relégation des femmes dans des rôles secondaires, quand même. Et j'entendais d'ailleurs une philosophe dernièrement qui soulignait ça, qu'effectivement, la philosophie, elle a été construite aussi uniquement par des hommes. Et donc, que les concepts doivent être aussi repensés par rapport à cette question-là aussi, d'avoir un regard plus féminin sur le monde. Et bon, on parle de Raphaël Enthoven, voilà, de philosophe, mais je crois que vraiment, cette position assez primaire, je trouve, sur une question qui est posée, qui est cette écriture inclusive et plus spécifiquement ce point médian, pour moi, montre, souligne justement peut-être en quoi ce petit point peut finalement bousculer les usages qui sont quand même ancrés, comme je le disais, depuis des siècles. Et donc, oui, pour moi, je l'utilise, le point médian, par militance. Donc, je ne vais pas chercher non plus à gommer cette réalité des hommes et des femmes. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi la réalité transgenre qui s'intègre. Et dans ce sens-là, c'est clair qu'une écriture dégenrée est intéressante, mais je crois que poser l'acte du point médian pour rappeler la présence des femmes dans notre monde, c'est quelque chose d'important. Je crois que c'est vrai que plus on l'applique, et moi je le vois vraiment généralisé aujourd'hui et j'en suis heureusement surprise, plus il va s'installer en fait dans les habitudes. Et donc, c'est cette force de l'usage qui va amener à peut-être à un certain moment un changement plus officialisé, plus normé et reconnu par des institutions. J'ai été écouter effectivement ce que Raphaël Enthoven racontait, mais moi, ça me fait rire en fait. Je veux dire, ça me fait rire parce que je me dis, ben, si vraiment ils sont à ce point opposés à voilà, une pratique de ce type-là, ça veut dire vraiment qu'ils se sentent très fort remués de l'intérieur. C'est quelque chose qui me fait rire. Je pense que aussi peut-être, il y a de notre côté, comme je le disais, moins de sacralisation de la langue française. Et voilà, la langue, elle change, elle se modifie et... Ben voilà,
Tu veux dire il y a moins de sacralisation de la langue française en Belgique?
Je pense. Je pense qu'il y a plus de souplesse, plus de liberté par rapport à l'usage qu'on peut faire de la langue. Et donc, voilà, on va utiliser peut-être plus facilement ces éléments-là. Je milite aussi pour une liberté et une langue vivante et pas une langue figée par une institution telle que l'Académie française. Quand l'Académie française dit qu'il faut dire la Covid et pas le Covid, moi, de nouveau, ça me fait rire. Je veux dire, en Belgique, on a notre vieux Gauss qui a utilisé la grammaire du bon usage et donc qui va se baser sur l'usage plutôt, l'usage des gens, peut-être des journalistes, mais aussi des écrivains, des écrivains. Et donc, je crois que c'est plus cette autorité-là, peut-être, qui peut être une référence pour suivre finalement le mouvement que la langue suit et les choix que font finalement les personnes en fonction de ce qu'elles vivent de manière plus large que simplement par l'écriture ou le dire. Hein.
Oui, après, c'est vrai que la Belgique est un pays bilingue aussi. Un pays bilingue est plus jeune quelque part que la France. Alors, je ne défends pas l'Académie française en disant ça. C'est juste pour dire que parfois, il y a des traditions qui sont beaucoup plus ancrées dues par une ancienneté comme ça, d'usage peut-être, de mœurs, de coutumes. Mais je pense que peut-être le bilinguisme de la Belgique y est aussi... le fait qu'on soit un peu plus souple ici, quoi. En quoi cette question du coup liée au genre concerne la scriptalinéa et les collectifs d'écrit?
au niveau de Script Alinea, c'est sûr qu'on a construit la méthodologie des collectifs d'écrit sur un outil qui a été réalisé au sein de la SBL Flora et qui travaille sur les questions de genre, de précarité et d'économie solidaire, et qui a été d'ailleurs réalisé en co-construction avec 10 groupes de femmes et un homme. On avait fait d'ailleurs à ce moment-là le choix d'écrire une partie de cet outil pédagogique du jeu ou nous au féminin d'ailleurs, puisque d'ailleurs les animatrices, les formatrices qu'on avait rencontrées étaient toutes des femmes. Donc il y a aussi, c'est vrai, des secteurs qui sont très très féminins et voilà, c'est important aussi de ne pas le nier. Nous, à Script Alinea, on espère quand même toujours voilà, arriver à une mixité, à toucher autant d'hommes que, de femmes. Mm-hmm. Clairement, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais cette question du genre, elle est vraiment ancrée dans notre approche, dans notre philosophie, dans l'esprit de laisser en fait la parole à toutes les personnes voilà, qui viennent participer à un collectif d'écrit et donc à ce que finalement cette méthodologie soit au service des citoyennes et des citoyens pour que ce soit un levier de prise de parole par l'expression artistique. Et dans ce sens-là, on est vraiment dans une optique de genre et on veut vraiment travailler en particulier sur les questions de genre et sur ces réflexions-là, en particulier en lien et en dialogue avec les questions liées à l'environnement. Parce que c'est pas rien, je veux dire, la question d'un équilibre entre les différentes réalités humaines, elles sont forcément reliées à la question de l'équilibre des écosystèmes. Et donc, voilà, c'est vraiment dans cette articulation-là qu'on est pour l'instant. Peut-être, oui, je peux citer un autre philosophe que j'aime beaucoup, Pascal Prick, qui vraiment travaille sur la mise en lumière de la femme préhistorique, par exemple, en rappelant voilà, tout son rôle. Oui, mais parce que là aussi, on parle toujours de l'homme préhistorique. Et donc, il met en évidence qu'on a nié pendant voilà, des siècles la réalité et l'action la réalité et l'action des femmes à cette époque-là. Et il relie vraiment cette question du féminisme dans aussi l'analyse, le regard qu'on porte sur les choses, sur notre environnement et sur le passé. Il relie ça aux questions environnementales, au respect de la Terre qui, lui aussi, relève d'un certain féminisme, dans le sens d'un souci d'arriver à un équilibre au sein de l'humanité et de la planète.
Merci Isabelle. Rosetta, vous aviez une petite conclusion à ajouter ?
Comme l'espéranto aurait pu viser à établir un pont linguistique neutre entre les cultures européennes, l'écriture inclusive pourrait viser à établir un pont médian entre les sexes. Bon, on a raté l'espéranto, j'espère qu'on ne rattrape pas l'écriture inclusive.
Bien voilà, il va être temps d'achever cette émission. Donc pour aller un peu plus loin sur la question, Virginie Tumeller, on peut trouver des informations sur votre site concernant les recommandations et d'autres outils.
Oui, tout à fait. Donc on peut commander la brochure en envoyant un mail à langue-française@cfwv.be. En allant sur le site web de la Direction de la langue française aussi, vous trouverez des outils. On a publié d'autres guides, hein, pas seulement un pur sans expure. On a aussi un petit guide de rédaction claire. On a des outils pédagogiques. On invite les auditeurs et les auditrices à visiter le site de la Direction de la langue française. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours nous envoyer un petit mail et on vous renseignera. Voilà.
En tout cas, je rappelle le site pour nos auditrices et nos auditeurs. Donc, www.langue-française.cfwb.be. Là, vous pourrez trouver toutes les informations dont vient nous parler Virginie. Pouvez-vous également nous dire quelques mots sur la langue française, en fait, Virginie ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est une opération qui est organisée par la Direction de la langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. Et alors, en Belgique, on choisit d'organiser une semaine d'activités autour de la langue française. Cette année, c'est du 13 au 21 mars. C'est organisé aussi en collaboration avec le réseau OPAL, qui est le réseau d'organismes de politique linguistique de la francophonie du Nord, donc c'est-à-dire le Québec, la France, la Suisse et la Belgique. Et ensemble, à chaque langue française, en fait, on publie un petit livret des 10 mots sur un thème en particulier. Cette année, le thème « Explorer, c'est l'heure ». Et ça donne lieu à une publication où, en fait, un bédéiste, ou parfois plusieurs bédéistes issus des quatre pays de la francophonie du Nord, illustrent les mots qui ont été choisis pour illustrer le thème de l'air. Voilà. Alors, c'est aussi organisé en collaboration avec le réseau de la Ville des mots. Et cette Ville des mots change chaque année. Alors, cette année, c'est les quatre communes du nord-ouest de Bruxelles qui, ensemble, portent le titre de Ville des mots. Et donc, c'est en quelque sorte le noyau dur des activités donc, qui auront lieu à Berkheim-Saint-Agathe, à Ganshoren, à Jette et à Kuckelberg. Mais il y a aussi une foule d'activités dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça aussi, vous trouverez ça sur le site web de la langue française, en fait. Vous trouverez le programme en ligne. Donc, c'est www.lalanguefrançaisenfait.be. Vous aurez comme activité, c'est très, très varié. Il y a des ateliers d'écriture créative, il y a des installations artistiques, il y a des promenades, il y a des séances de lecture. Cette année étant vraiment très particulière en raison de la crise sanitaire, la langue française, en fait, reviendra aussi pendant une semaine au mois de septembre, du 17 au 27 septembre. Donc, voilà, restez connectés avec lalanguefrançaise.be. On a aussi un compte Facebook et un compte Instagram.
Ok, merci beaucoup Virginie. Et alors du côté de Script Alinéa, pour le coup, Isabelle, que se passe-t-il?
Oui, ben alors vous pouvez aller sur le site de Script Alinéa aussi, scriptalinéa.org. Il y a un article dans les news qui présente l'émission radio et puis qui donne toute une série de pistes pour aller plus loin autour de cette question de l'écriture inclusive. On ne l'a pas dit de manière suffisamment explicite, mais Effleurer l'humain, qui est le recueil, qui est le résultat finalement de ce premier parcours du collectif Effeuillade de mots, traitait de la question de la place de l'être humain dans la société. Et donc, c'est aussi pour ça que c'était tellement adéquat de travailler sur l'écriture inclusive au sein de ce parcours d'écriture, parce qu'effectivement, ça questionnait aussi ce parcours, la place de la femme dans la société. Et donc, en fait, si vous voulez aller découvrir tous les textes de Jacqueline, de Rosetta et puis de leurs comparses, vous pouvez aller effleurer, on va dire, votre souris et aller toujours sur le site, vous cliquez vers le menu, vers les recueils, et là, vous allez pouvoir utiliser le moteur de recherche. Hein, c'est trié selon le thème, et le thème c'est être humain et société, et vous allez enfin découvrir Effleurer l'humain, qui est téléchargeable gratuitement, et voilà, je vous invite vraiment à lire tous ces textes, parce que ça pose les questions de manière plus globale, évidemment, que simplement l'écriture inclusive. On n'a pas abordé réellement cette question-là au sein de notre recueil, mais la question de la place de l'être humain dans la société, certainement.
Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a des événements qui sont programmés du côté donc, de Script Alinéa?
Oui, il y a le collectif Démasqué, en fait, qui est un collectif qui a vu le jour au lendemain du confinement, du tout premier confinement, qui a réalisé un recueil qui s'appelle Mars 2020. Et bien, maintenant qu'on est en mars 2021, il relance un nouveau parcours d'écriture. Et donc, il y a possibilité de le rejoindre. On peut s'inscrire via le site. Et puis, le 13 mars, donc samedi prochain, il va y avoir de nouvelles actions Still Standing for Culture, pour rappel, on en a parlé à l'émission radio précédente.
Merci Isabelle pour ces informations. Pour terminer, je propose que l'on écoute une slameuse active à Bruxelles lors d'une performance à la Bellone. La chanson s'intitule « La justice en balance » et l'artiste c'est Zouz. Voilà, je vous laisse avec Zouz, « La justice en balance » et je vous remercie à toutes pour votre participation et à bientôt.
Merci.
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 Merci. Merci.
La justice en balance, de mes peines, de mes coups, de ma malchance. Elle n'était pas là, dans cette pièce sombre, dans les méandres des ténèbres où mon espoir de vivre mourait peu à peu. La justice en balance, des gouttes de sang qui ont fouetté le carrelage, des paroles prononcées qui disparaîtront pas de mes cauchemars. La justice en balance de mon corps qui rampe et qui crie. Tout cela n'est devenu que des mots juridiques incompréhensibles. Un psy par là, un flic par-ci, parcours de combattante pour une guerre où j'ai jamais voulu me battre. L'injustice est comme une maladie qui s'injecte dans le corps par intraveineuse. Chétane entré dans le cœur, impossible de le faire partir. Le supplier pour qu'il laisse juste quelques secondes de répit. Oh oui, juste quelques secondes. Les paroles des autres claquent à la gueule. C'est injuste. Oui, toutes les femmes ici sentent ça. C'est injuste. Désolée, vous ne m'avez pas apporté le papier approprié, je peux rien faire pour vous. C'est injuste, mais la vie est injuste. C'est injuste, mais non, il n'aura pas rien. Il sera obligé de consulter un psychologue. C'est bien. Moi, mon psy, je le paye 75 euros de l'heure. Injuste, injuste, injuste. Et le poison injecté par intraveineuse te coupe le souffle. Il poignarde ta gorge avec des images et des odeurs. L'obscurité, le visage déformé par la haine, l'odeur de bière dans les cheveux. La justice en balance, des paroles, des couteaux, des rêves. Alors si la justice en balance, moi aussi je mettrais mon bandeau sur les yeux. Le karma, aucune chance, c'était qu'une jolie histoire qu'on racontait aux enfants avec les méchants méchants attrapés par les policiers. La justice en balance, et le karma a aucune chance.